Vous avez remarqué? J'écoutais ça, puis les années 70. C'était nice. Merci beaucoup. Merci pour la louange. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans Néhémie au chapitre 6. Néhémie 6. Et je vais vous lire les Néhémie 6.1 jusqu'à Néhémie 7.2. Alors, c'est Néhémie qui parle. Il dit, « Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballa, Tobija, Geshem, l'Arabe, et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballa et Geshem m'envoyèrent dire, « Viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée d'Ono. » Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messagers avec cette réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter. » Et je ne puis descendre, le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Ils m'adressèrent 4 fois la même demande et je leur fis la même réponse. Sanballa m'envoya ce message 5e fois par son serviteur, qui tenait à la main une lettre ouverte. Il y avait écrit « Le bruit se répand parmi les nations ». Et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir le roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront et à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballa, « Ce que tu dis là n'est pas, c'est toi qui l'inventes. » Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, « Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. » Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja, fils de Mehetabéel. Il s'était enfermé et il dit, « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer, et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. » Je répondis, « Un homme comme moi prendre la fuite? Et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'entrerai point. » Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait. Mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballa et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché. Et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballa, et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul, en 52 jours. Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte. Elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. Dans ce temps-là, il y avait aussi des grands de Juda qui adressaient fréquemment des lettres à Tobija et qui en recevaient de lui, car plusieurs en Juda étaient liés à lui par serment, parce qu'il était gendre de Shekania, fils d'Arak, et que son fils Jokanan avait pris la fille de Meshulam, fils de Berekia. Il disait même du bien de lui en ma présence, et il lui rapportait mes paroles. Tobija envoyait des lettres pour m'effrayer. Lorsque la muraille fut rebâtie et que j'eus posé les battants des portes, on établit dans leurs fonctions les portiers, les chantres, les lévites, Je donnai mes ordres à Anani, mon frère, et à Anania, chef de la citadelle de Jérusalem, homme supérieur au grand nombre par sa fidélité et par sa crainte de Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, ce matin, nous sommes assemblés pour plonger les regards dans ta parole, parce que c'est la parole de Dieu, Seigneur. Elle est source de vie pour nous. Elle est remplie de sagesse, Seigneur, pour nous. Et l'exemple de cet homme qui s'est consacré, qui s'est dédié entièrement à ce que tu avais placé sur son cœur, Seigneur, refusant toute distraction. L'exemple de cet homme qui a persévéré, ne faisant aucun cas de ce que l'on disait de lui, rien, Seigneur, ne pouvait le détourner de ce qu'il avait accompli. Seigneur, viens nous instruire ce matin. Viens parler à nos cœurs. Viens nous apprendre, Seigneur, à poursuivre ces projets que tu places sur nos cœurs pour ta gloire. Viens faire de nous des hommes et des femmes persévérants, Seigneur. Des gens qui vont mener à bien, qui vont mener à terme les projets que tu places sur notre cœur, Seigneur. Apprends-nous à mettre de côté les distractions. Apprends-nous à mettre de côté la paresse. Apprends-nous, Seigneur, à être persistants. Seigneur, viens te glorifier dans nos foyers. Viens te glorifier dans nos vies personnelles. Viens te glorifier dans notre témoignage au travail, Seigneur. Viens te glorifier en nous aidant à reconstruire, Seigneur. Viens te glorifier en nous donnant la force à l'intérieur de nous-mêmes de poursuivre ces objectifs que tu places devant nous. Je te prie, Père, spécialement ce matin pour les mères qui peuvent être découragées. Seigneur, tu as placé devant leurs yeux un beau projet, bâtir un foyer à ta gloire. Tu as placé devant leurs yeux un beau projet, celui de gagner leurs enfants pour toi, Seigneur, de les conduire dans tes voies, de faire d'eux des hommes et des femmes de Dieu, Seigneur, d'être un témoignage pour leur époux, un témoignage dans le quartier, un témoignage dans la famille élargie, Seigneur. Certaines d'entre elles sont certainement découragées, Seigneur, ayant le goût d'abandonner pendant la course. Il y a tellement d'embûches, tellement de distractions, tellement d'occasions, Seigneur, de mettre de côté ces beaux projets pour ta gloire. Je te prie de les fortifier ce matin. Je te prie, Père, de les bénir, de les encourager dans leur cœur, Seigneur. Viens clarifier leur vision. Viens fortifier leur cœur. Et chacun d'entre nous, Seigneur, devant qui tu as placé un projet concret pour ta gloire, Seigneur. Viens et fortifie nos âmes. Nous avons besoin de toi ce matin. C'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen. On trouve dans la parole de Dieu un beau proverbe qui dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Vous connaissez ça? Peut-être même que vous le connaissez sans savoir que ça vient de la parole de Dieu. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est l'Ecclésiaste qui dit ça. Et il y a énormément de sagesse dans cette parole-là. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». J'aimerais ça ce matin revenir sur l'image qu'on s'est donnée pour la série Néhémie Reconstruction, puis juste sur ce monsieur qu'on a là. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de le regarder attentivement, mais il manque pas juste une jambe à cet homme-là. Il a vécu des épreuves incroyables et du moins l'histoire que moi je veux voir dans cette image-là, c'est l'histoire d'un homme qui a dû lutter énormément pour arriver là où il est. Je veux dire, l'image qu'on a là, c'est l'image d'un athlète, littéralement. C'est l'image d'une longue réhabilitation, un long travail. Et nous, ce qu'on voit ici, c'est la fin du processus. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la fin du processus qu'on voit ici. C'est beau. C'est beau, même si c'est triste, même si ça parle de vie brisée, ça parle de vie reconstruite. Ça parle de la fin d'une chose. Maintenant, essayez de lire l'histoire qu'il y a derrière ça. Le nombre de fois où cet homme-là a été tenté d'abandonner dans sa course littéralement. Le nombre de fois où il a été tenté de baisser les bras, d'arrêter de lutter pour parvenir à refaire quelque chose avec sa vie. Ce serait tellement triste Ce serait tellement triste d'imaginer justement cet abandon pendant tous ces efforts de réhabilitation. On a pris cette image-là parce qu'elle nous parle de travail, elle nous parle de persévérance, elle nous parle d'effort, elle ne nous parle pas de coups de baguette magique. On aurait pu vous présenter quelqu'un qui avait encore ses deux jambes, ses deux bras, puis vous dire qu'il est sorti d'un accident indemne et ça aurait été une action miraculeuse, puis ça aurait été bon. Mais ça n'aurait pas été Néhémie. Ça n'aurait pas été Néhémie. Ce matin, je veux vous parler de distraction. Pour moi, ce passage-là nous parle de distractions possibles qui viennent dans le chemin du projet de Néhémie. Je veux vous parler de toutes ces choses qui peuvent nous arrêter dans notre course, nous empêcher d'accomplir ce que Dieu a placé sur notre cœur pour sa gloire. Voici comment je résumerai le message de Néhémie et le message que je vous apporte ce matin. Dieu a placé un projet pour sa gloire sur votre cœur. Gardez le focus. Gardez le focus. Refusez les distractions. Et remettez-vous-en à Dieu pour les embûches. Dites-vous une chose, plus il va y en avoir, plus Dieu sera glorifié. Ça a l'air simpliste ce que je vous dis là, mais c'est ça qui se passe ici dans Néhémie. Dieu a placé un projet pour sa gloire sur votre cœur. Gardez le focus. Laissez de côté les distractions. Remettez-vous-en à Dieu pour toutes les embûches qui vont survenir. Plus il va y en avoir, plus Dieu sera glorifié. Plus Dieu sera glorifié. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous parler ce matin d'un success story. Je ne suis pas en train de vous parler de principe d'épanouissement personnel, d'accomplissement personnel, d'accomplissement dans votre carrière. D'accord, ce serait facile. On pourrait prendre tout le livre de Néhémie, juste tordre un petit peu le fondement même du livre, sortir tous les principes qui sont appliqués dans la vie de Néhémie, puis dire, on a ici des principes d'épanouissement personnel, de succès dans ta carrière. Et le pire, c'est que vous pourriez aller dans les librairies chrétiennes et trouver quelques livres qui font exactement ça avec Néhémie. C'est une autre histoire. C'est pas ça l'histoire de Néhémie. L'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un homme qui avait tout. Néhémie était déjà un success story. Néhémie, c'est l'histoire d'un petit juif qui vient d'un tout petit pays, qui est un espèce de juif parvenu, qui a réussi à se dégoter une place, on ne sait pas trop comment, juste à côté de l'homme le plus puissant, le plus influent, le plus riche de son époque. C'est le conseiller personnel à la cave à vin du roi le plus puissant de toute la région. C'est l'Empire des Perses. Il est son conseiller personnel. Et l'histoire, les informations historiques nous disent que cet homme-là était beaucoup plus qu'un conseiller de bon vin sur un bon repas. C'était celui qui avait l'oreille du roi quand le roi avait ouvert sa deuxième bouteille. C'était celui qui avait l'oreille du roi et qui était l'oreille pour le roi quand le roi commençait à épancher son cœur. Les historiens nous disent que ce poste-là était un poste de prestige, de conseiller personnel. Alors, l'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un success story, une espèce de self-made man, d'accord? On ne sait pas vraiment d'où il vient, on ne sait pas comment il a réussi à se placer là, mais Néhémie faisait partie du jet set. Je sais, ça fait 3 anglicismes. Je sais, vous me chicanerez tantôt. Il faisait partie du jet set pareil, c'est ça qui était vrai. Bon, il y avait ses petites croyances personnelles, des convictions assez profondes, assez sérieuses, mais on ne sait pas pourquoi, ça n'avait pas nui à sa progression dans les hautes sphères d'influence de l'Empire. Et l'histoire commence là pour débouler. Parce que cet homme-là, qui avait une position extraordinaire, va avoir une conviction, un projet sur son cœur qui va bouleverser complètement son avenir, qui va chambarder son avenir, va avoir un projet sur son cœur pas pour sa gloire personnelle. Vous comprenez, si vous prenez Néhémie puis vous en faites des principes de succès personnel, vous venez d'évacuer tout le fondement du livre. Cet homme-là a eu des projets sur son cœur qui n'étaient pas pour son épanouissement personnel, pour ses finances personnelles, certainement pas, pour un avancement dans sa carrière. Dieu va placer sur son cœur un projet extraordinaire d'aller rebâtir les murs de la ville de Jérusalem parce qu'il est bouleversé de voir le témoignage du nom de l'Éternel qui est complètement bafoué. Parce que cette ville est en quelque sorte en ruine. Et donc, il a à cœur de venir restaurer la gloire du nom, le témoignage du nom de Dieu à Jérusalem. Sa vision va beaucoup plus loin que des murs, parce que à partir de Néhémie 6, les murs sont terminés d'être construits. Le travail fait juste commencer dans la vision de Néhémie. Il nous raconte ça comme si c'était pas grand-chose et on passe à la prochaine étape dans le projet. Mais cet homme-là va quitter son poste, va risquer sa vie, dès le départ, possiblement en proposant ce projet-là à l'empereur, mais certainement par la suite, comme on va le voir dans le texte ici, il va risquer sa vie, il va risquer sa carrière, il va investir, il va engouffrer dans ce processus-là une bonne partie de ses richesses personnelles, puisqu'il ne prendra pas son salaire de gouverneur, ne profitera pas des avantages que les autres gouverneurs s'octroyaient dans le processus, et au contraire, va même pourvoir à nourrir 150 personnes à chaque jour, comme on l'a vu la semaine dernière. Il va risquer sa réputation, il va accepter que son nom soit sali, il va risquer d'être rejeté par les gens de son peuple, tout ça parce que Dieu avait placé sur son cœur un projet pour sa gloire. Alors, entendez-moi bien, quand je vous dis le résumé de ce message, c'est Dieu a placé un projet sur ton cœur pour sa gloire. Garde le focus. Refuse les distractions. Remets-toi-en à Dieu pour toutes les embûches qui vont venir à travers le processus. Et sache dans le fond de ton cœur que plus il y en aura, plus le nom de Dieu sera glorifié. Plus le nom de Dieu sera glorifié. Néhémie va faire face à des distractions. J'ai appelé ça des distractions, mais vous savez, on aurait pu appeler ça des menaces. Parce que c'est vraiment, vraiment sérieux ce qui va se passer. Sa vie va être mise en danger. On va porter atteinte à sa réputation. Son projet va risquer de tomber. Et il y a des jeux de coulisses à la fin du passage que j'ai lu. On voit que pendant tout ce temps-là, autour de lui, il y a des Juifs qui sont en train d'envoyer des lettres, d'échanger des lettres avec les autres nations environnantes, même qui essaient de lui dire, écoute, Sanballat, je pense qu'il faudrait que tu l'écoutes, c'est un personnage important. Il y a un jeu de coulisses au niveau politique digne d'un film d'Oliver Stone ici, d'accord? Donc, ça dépasse les simples distractions. On aurait pu appeler cette prédication-là « menace ». Le problème, c'est que si je l'avais intitulé « menace », ça n'aurait pas représenté le passage, parce que pour Néhémie, il ne traite jamais ses menaces comme de véritables menaces. Ce qui ressort de son attitude, de son comportement, la manière qu'il les gère, ce sont pour lui de possibles distractions qui pourraient venir l'amener à perdre le focus dans le projet que Dieu a placé devant lui. Il traite ces choses avec une apparente désinvolture parce qu'il sait ce qu'il a à faire et il veut poursuivre sa course. Le verset clé à retenir dans tout ce passage-là, c'est le verset 3. Retenez le verset 3, vous retenez l'essentiel du passage, l'essentiel de l'attitude de Néhémie. Devant ce qui se produit, voici ce que Néhémie envoie comme réponse. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. » En d'autres mots, Néhémie est en train de dire « Écoutez les boys, je suis vraiment touché par votre invitation. » Ce serait vraiment le fun de prendre un bon repas ensemble, tout ça, une petite fin de semaine. Vous savez que je travaille fort, mais j'ai beaucoup de travail ici. Je n'ai pas vraiment de temps à perdre avec vous. En gros, c'est ça qu'il fait. Et ça va être son attitude tout le long. Néhémie voit ses menaces comme des distractions potentielles dans la course du projet que Dieu a placé sur son cœur. J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterais pour aller vers vous. Voyez-vous, Néhémie connaît la mission que Dieu a déposée sur son cœur. Première distraction qui se présente à lui, Sanballat et ses acolytes veulent l'amener à l'écart pour ralentir l'ouvrage. D'accord? Ils veulent l'amener à l'écart. Ils disent, viens nous rejoindre dans des villages, puis on va prendre un temps ensemble pour discuter. Ils veulent ralentir l'ouvrage. Plus littéralement, ils veulent éliminer celui qui porte l'ouvrage en avant. Néhémie le sait puisqu'il dit au verset 2, à la fin du verset 2, « Ils avaient médité de me faire du mal. » Il lit dans leur jeu. Eux autres se disent, « Écoute, si on ne peut pas décourager l'ensemble du peuple, tuons le gars. Éliminons le chef, la tête de file. » De toute façon, on apprend un peu plus loin dans le passage qu'ils avaient des leaders juifs qui travaillaient de concert avec eux, qui envoyaient des lettres qui étaient dans ces jeux de coulisses. Alors, éliminons Néhémie, puis on va être libre de faire ce qu'on a à faire. Nos bonhommes prendront leur place, et puis on arrêtera le projet. Ils avaient médité de me faire du mal. Ils veulent le faire sortir de la ville, l'éloigner de la protection qu'ils pouvaient avoir, s'arranger pour le contenir là, l'éliminer, l'isoler, n'importe quoi, mais pouvoir laisser d'autres probablement prendre la tête du projet puis commencer à réfléchir sur les enjeux économiques de tout ce projet-là, du ralentissement économique, de tout ce que ça pouvait faire, puis commencer juste à déplacer tranquillement quelques pions puis dire « Ouais, mais peut-être qu'on devrait quand même travailler un petit peu plus de concert avec nos voisins autour. Vous voyez que ça crée des tensions, puis on terminera le travail un petit peu plus tard. » Regardez encore sa réponse, il dit « J'ai un grand ouvrage à exécuter, je ne puis descendre. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai. » Les boys, je suis vraiment flatté par votre invitation. C'est charmant, mais j'ai pas mal de pain sur la planche. Et vous savez, ça nuirait. Comme vous le savez, je dois terminer le travail que j'ai commencé parce que peut-être vous êtes au courant, il y a des gens qui ne sont pas tellement favorables à notre projet, puis ils pourraient en profiter si je m'éloignais. Néhémie joue à l'innocent avec eux, vous voyez? Il décide de ne pas rentrer dans tout ça puis commence à dire « Ah! Ah! » Non, regardez, c'est correct, les gars. Restons courtois. Vous m'avez fait une belle invitation. Je la décline gentiment. J'ai d'autres choses à faire. Je suis désolé, les copains. Néhémie connaît la mission que Dieu a déposée sur son cœur. Le projet que Dieu a placé sur son cœur et il ne se laissera pas distraire. Les gars sont insistants. Quatre fois, ils envoient des messagers avec la même requête. Quatre fois, Néhémie donne la même réponse courtoise. Pour Néhémie, ce jeu-là, ce n'est qu'une distraction possible dans l'accomplissement du projet que Dieu a placé sur son cœur. Et il ne tombera pas dans le panneau. Il ne se laissera pas distraire. Il n'y a pas de temps à perdre. Deuxième distraction, Sanballat questionne ses motifs et menace de salir sa réputation. Mais Néhémie ne sera pas distrait parce que l'on questionne ses motifs. Rappelez-vous que Néhémie a porté pendant 4 mois dans la prière. Il a examiné pendant 4 mois dans la prière son projet. Ça, c'est Néhémie 1. Pendant 4 mois, il a examiné dans la prière son projet, ses motifs. Il a porté ça devant Dieu. Il a pleuré devant l'Éternel. Il a cherché la face de Dieu parce que dès le départ, il s'est dit, « Wow, il faut faire quelque chose ici. » Mais il a porté ça, il a baigné ça dans la prière. Néhémie a eu l'occasion de laisser Dieu lui montrer si ses motifs n'étaient pas dignes d'un projet de Dieu. Il connaît son cœur. Il connaît ses motifs et il ne se laissera pas distraire par ceux qui voudraient venir jouer dans sa tête. Ceux qui voudraient venir questionner ses motifs ou salir sa réputation. Il sait ce qu'il a à faire. Il sait que ce qu'il est en train de faire, il l'a entrepris avec un cœur droit devant Dieu et il ne se laissera pas distraire. Que Dieu a placé sur ton cœur, si tu l'as examiné devant lui, tu sais que c'est un projet pour sa gloire. Tu as consulté, tu as cherché des conseils, tu as mis ça dans la prière. Après ça, il va arriver des circonstances où ton cœur va être mis en question. Des motifs. Il peut y avoir même des implications des fois où certains vont dire, ah, on sait, il fait ça. Il fait ça pour son nom. Il fait ça pour avoir de l'air plus smart que les autres. Et voyez-vous, l'attaque de Sanballat passe en deuxième, il passe en deuxième vitesse ici, parce que là, il commence à être beaucoup plus vicieux dans son attaque. Sanballat envoie un messager qui se présente devant lui. Il y a un message dans cette lettre-là. On lit le message au verset 6 et 7. Et il commence à dire à Néhémie, « Fais attention, Néhémie. Fais attention parce que ta réputation pourrait vraiment être salie à travers tout ça. Entachée, ça pourrait même se rendre auprès du roi. » Verset 6 et 7, voici ce qu'on lit. C'est ce qui est écrit dans la lettre. « Le bruit se répand parmi les nations et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille. Tu vas, dit-on, devenir leur roi. Tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem roi des Juifs. » Ces gens-là connaissaient très, très bien la culture, la religion de Néhémie. Et donc, ils comprennent le système. C'est des prophètes qui vont venir annoncer que le Messie est là, le roi, l'élu loin, celui qui a été choisi par Dieu. Et donc, ils disent, il y a une rumeur que certains commencent à répandre, disant que c'est ça ton projet, c'est ça dans le fond que tu as à cœur. 7b, et maintenant ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Maintenant, il y a un petit détail que Néhémie nous donne comme information. Le messager arrive auprès de lui avec une lettre ouverte. Si le facteur arrive chez vous puis met dans votre boîte à mal du courrier puis qu'il y a une des enveloppes qui est ouverte, c'est quoi votre première pensée? Ça a été lu, cette affaire-là. Mais ce messager-là n'arrive pas comme il était de coutume dans les communications entre des chefs avec une lettre scellée. Il arrive avec une lettre dont le sceau a été brisé, il se présente avec la lettre ouverte et il dit « Tiens ». Et Sanballat est en train de dire simplement à Néhémie, « Ça, là, mon ami, là, c'est ce que je suis en train de répandre partout dans l'Empire. Partout autour de nous ici, sache, puisque la lettre est ouverte, que ce n'est pas une communication juste entre toi et moi. Il y a d'autres yeux qui ont lu ça. » Donc, il est en train de lui déclarer qu'il va s'appliquer. « Si tu continues, mon ami, c'est ça qu'on va répandre sur toi. » constamment et partout chez les ennemis environnants. Et il questionne ses motifs et il essaie de lui faire peur. Mais encore une fois, Néhémie n'a pas vraiment de temps à perdre. Alors regardez la réponse qu'il lui fait au verset 8. « Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tu délires, mon homme. Tu fabules. C'est des inventions. C'est toi. » Néhémie ne se laissera pas distraire parce qu'on essaie de venir jouer dans sa tête. Néhémie ne se laissera pas distraire parce qu'on essaie de faire circuler ou on fait circuler des choses fausses sur sa réputation. Néhémie connaît le projet que Dieu a placé devant lui et il ne va pas se laisser distraire par ça. Il va poursuivre, il va pousser de l'avant son projet. Pas de distraction, j'ai un projet à accomplir pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est ça que tu es en train de te dire actuellement? Parce qu'il va se passer des choses dans le processus où tu vas te remettre en question. Et ça se peut que tu arrêtes dans ta course. Des fois, ça peut venir par des gens. Des fois, c'est par des circonstances. Des fois, il y a des jeux hein, aussi. Le projet ne se déroule pas aussi bien qu'on voudrait, puis ça se peut qu'on passe pour du monde pas trop organisé, qui ne savent pas trop où ils s'en vont dans le processus, puis... Puis là, c'est toute la question de ma réputation qui m'amène à re-questionner mon projet. Ouais, peut-être que je vais avoir de l'air fou en fin de compte avec cette affaire-là. Ça ne change rien dans l'esprit de Néhémie. C'est un projet que Dieu a placé sur son cœur. Vous direz ce que vous voulez. Vous penserez ce que vous voulez. Vous fabulez les copains. Je ne fais pas ça pour mon nom, je fais ça pour Dieu. Troisième distraction. Shemaïja tente de lui faire peur. Écoutez bien ceci, pour l'amener à prendre un moyen, une solution que Dieu n'approuvera pas. Shemaïja veut l'amener à pécher pour pouvoir ensuite détruire sa réputation et arrêter le projet. Regardez avec moi les versets 10 à 13. Je me rendis chez Shemaïja, fils de Delaja. On ne sait pas exactement qui est-ce qu'il était, mais c'est quelqu'un qui apportait des prophéties. Fils de Métabéel. Il s'était enfermé et il dit « Allons ensemble ». Donc, il amène Néhémie à l'écart, seul avec lui, il lui parle et lui dit « Allons ensemble dans la maison de Dieu, au milieu du temple, et fermons les portes du temple, car ils viennent pour te tuer. Et c'est pendant la nuit qu'ils viendront te tuer. » Alors, il vient comme un prétendu allié qui dit, « J'ai entendu. Dieu m'a dit. Il y a des gens qui projettent de te tuer. Viens te mettre à l'abri avec moi dans la maison de l'Éternel. Ils n'oseront pas porter la main sur toi dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Très-Haut. Viens te mettre à l'abri avec nous, avec moi. » Verset 11, « Je répondis, un homme comme moi prendre la fuite. » Et je comprends de ça que Néhémie est en train de dire, « Attends, je comprends ce que ça implique. » Les gens vont dire, le peuple va dire, « Néhémie a peur, il est en train de plier. » Peut-être que notre projet ne se mènera pas à terme. Mais il dit aussi, « Quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? » La loi interdisait formellement à quelqu'un qui n'avait pas été mis à part pour le service du temple d'entrer au cœur du temple. Shemaïa est en train de dire à Néhémie, « Écoute, Néhémie, je comprends, mais les circonstances sont exceptionnelles et c'est Dieu qui m'a dit qu'on devait le faire. » Il faut mettre ta vie à l'abri. Verset 12. Et je reconnus que ce n'était pas Dieu qui l'envoyait, mais il prophétisa ainsi sur moi parce que Sanballa et Tobija lui avaient donné de l'argent. En le gagnant ainsi, ils espéraient que j'aurais peur et que je suivrais ses avis et commettrais un péché, et ils auraient profité de cette atteinte à ma réputation pour me couvrir d'opprobre. Simplement, Néhémie est resté fidèle à Dieu et à sa parole. Et cet homme-là était un faux prophète qui était en train de faire une fausse prophétie parce qu'il proposait une solution qui allait à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu interdisait à Néhémie d'aller se cacher comme ça à l'intérieur du temple. Il n'était pas admis. Il aurait pu aller s'abriter à l'intérieur de la cour extérieure du temple. Ça aurait suffi. Mais ce n'est pas ça le projet de Shemaïa. Il veut l'amener à dire, écoute, peut-être que c'est pas le temps d'être by the book, là. Je comprends que tu es un homme de la parole, mais tu sais, il y a des moments où tu mets de côté certains principes, puis Dieu va le bénir, ton projet. Il y a des situations exceptionnelles où tu n'es peut-être pas obligé d'honorer la parole de Dieu pour honorer le nom de Dieu. Peut-être qu'on peut faire quelques billets ici. Et ça va se produire dans vos projets, je vous le dis. Dieu place des projets devant nous et à un certain moment donné, il y a des décisions difficiles à prendre. Puis tu te dis, peut-être qu'on peut le faire autrement. Peut-être que Dieu a besoin que je lui donne un petit coup de main ici. On peut mettre de côté quelques préceptes de sa parole, puis on va y arriver. Ce serait une distraction qui viendrait apporter l'opprobre sur le projet que Dieu a placé sur votre cœur. Ce serait une distraction qui pourrait entraîner la chute du projet que Dieu a placé sur votre cœur. C'est ce qui se serait passé ici avec Néhémie. Mais voyez-vous, Néhémie connaissait le projet qu'il avait sur son cœur. Et toutes ces choses-là, il les voit comme des distractions. Seulement comme des distractions. Il refuse de tomber dans le panneau et de ralentir dans sa course. Et une des choses qui est belle avec Néhémie, c'est qu'on a quelqu'un qui est totalement humain. Je ne suis pas en train d'essayer de dire par tout cela que Néhémie est insensible à ces choses-là, que Néhémie n'est pas affecté par ce qu'on est en train de dire sur sa réputation. Vous avez juste à lire le verset qui suit. Verset 14. « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobija et de Sanballa et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Néhémie voit très bien qu'on est en train d'essayer de lui faire peur. Il voit très bien qu'il y a des jeux et qu'on est en train de salir sa réputation. Néhémie n'est pas insensible à tous ces jeux-là qui sont en train de se produire. Mais Néhémie a pris la décision de s'en remettre à Dieu parce qu'accorder trop de temps et trop d'énergie à ses ennemis, à ses distractions, le ralentirait dans son projet. Dieu a placé un projet sur ton cœur, garde le focus et remets-toi-en à Dieu pour les embûches. Laisse Dieu s'occuper des choses qui pourraient te distraire, te ralentir dans sa course. Ça ne veut pas dire qu'on est insensible. Ça ne veut pas dire qu'on est des sans-cœur et qu'on n'est pas affecté quand quelqu'un commence à remettre en question nos motifs. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'on s'en remet à Dieu pour ces choses-là. On laisse le Seigneur souverain s'occuper de ces choses-là. Et littéralement, Néhémie est en train de dire, un jour, ils vont comparaître. Hein, Dieu, rappelle-toi-en, s'il te plaît, prends note. Prends note. Moi, je garde le focus. Prends note en attendant. C'est correct, on s'occupera d'eux plus tard, Seigneur. C'est ça qu'il est en train de faire ici. Il s'en remet à Dieu parce qu'il sait que Dieu est souverain. Et l'ironie dans tout ça, c'est comme on va le voir, plus il va y avoir d'embûches, plus Dieu va être glorifié. Au verset 15, Néhémie, c'est comme un espèce de commentaire un petit peu simple, on dirait laconique, juste comme ça. Il laisse tomber ça, puis il dit, « La muraille fut achevée le 25e jour du mois d'Elul en 52 jours. » On a terminé, malgré toutes les distractions. On a terminé. Cette course-là de Néhémie, on pourrait le résumer en disant que c'est un effort par la grâce de Dieu de concentration pour refuser toutes les distractions jusqu'à ce que le projet soit accompli. Maintenant, regardez le commentaire que Néhémie fait au verset 16. Il dit, « Lorsque tous nos ennemis l'apprirent, toutes les nations qui étaient autour de nous furent dans la crainte, elles éprouvèrent une grande humiliation et reconnurent que l'œuvre s'était accomplie par la volonté de notre Dieu. » L'ironie dans tout ça, c'est que tous les jeux de coulisses que Sanballat a fait, que ses ennemis ont fait pour pouvoir attirer de plus en plus d'alliés contre Néhémie, tout ce que ça a fait, c'est que ça a attiré davantage de témoins à la gloire de Dieu. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rassemblé un grand auditoire qui allait être confondu et qui allait voir la gloire de Dieu. Littéralement, c'est ça qui s'est produit. C'est un petit peu le même commentaire que Joseph a fait à ses frères lorsqu'il dit, « Voici, vous aviez projeté de faire ça contre moi, mais regardez ce que Dieu avait à cœur de faire avec tout cela. » Et la gloire de Dieu éclate d'autant plus que la situation a été dramatique et elle a été difficile. Mais Néhémie était prêt à s'en remettre à Dieu pour pouvoir laisser Dieu éclater sa gloire de manière plus grandiose encore. Est-ce que vous êtes prêt, à travers le projet que Dieu a placé sur votre cœur, de regarder tous les embûches qui vont survenir au fur et à mesure qu'elles vont survenir, et tout simplement vous en remettre à Dieu, non pas avec une espèce de pensée positive, de négation de la réalité. Nous connaissons notre Dieu. Nous parlons de ce que nous connaissons. Nous connaissons notre Dieu. C'est ainsi qu'il travaille. Il manifeste sa gloire à travers les embûches qui se dressent devant nous. Est-ce que vous êtes prêts à considérer les embûches qui vont se multiplier en les remettant à Dieu et en disant, « Seigneur, elles se multiplient, ta gloire n'en sera que plus grande. » Est-ce que vous êtes prêts à faire ça pour ne pas leur accorder trop d'attention? Voyez-vous, Néhémie aurait pu décider d'aller confronter ses adversaires. Il aurait pu décider d'aller défendre son nom publiquement. On l'a vu la semaine dernière, Néhémie savait quand est-ce qu'il fallait accorder de l'attention à une situation. Néhémie a accordé énormément d'attention lorsque des gens souffraient du projet et Dieu lui a montré un angle mort, quelque chose qu'il n'avait pas vu. Néhémie a accordé de l'attention à ce moment-là, il a fait le travail qu'il avait à faire. Mais il ne fait aucun cas de sa réputation, au moins en apparence, il s'en remet à Dieu. Il ne fait aucun cas des menaces contre sa vie, parce qu'il connaît le projet qu'il a à faire. Et lorsque les obstacles se multiplient, tout ce qu'il fait, il adresse une prière à Dieu et dit, « Oh mon Dieu, fortifie-moi. Fortifie-moi. » J'aime la traduction sommaire ici qui dit, « Fortifie-moi pour ma tâche. » Néhémie connaît la tâche qu'il a à accomplir. C'est ainsi que Dieu se sert d'êtres humains faibles et fragiles comme vous et moi pour se glorifier. Et on trouve ce principe-là à plusieurs reprises dans les Écritures. L'apôtre Paul va dire en quelque sorte la même chose. Et je vais juste vous lire les passages dans 2 Timothée 2, 3 à 10. D'accord? Vous pourrez prendre le temps d'aller méditer ça. Paul avait une vision très claire de l'appel que Dieu avait placé sur sa vie. Il connaissait le projet que Dieu avait placé sur sa vie. Il était appelé à être l'apôtre des païens, à étendre les limites du royaume le plus possible, et à aller implanter des églises et conduire des païens à Christ le plus possible jusqu'à la fin de sa course. Et quelles que soient les embûches, les circonstances, il les regardait toujours à travers cette lunette, qu'il soit en prison, qu'il soit devant des obstacles. Il décidait de ne pas être distrait. Et lorsqu'il veut transmettre ce principe-là à son fils dans la foi, Timothée, voici ce qu'il dit dans 2 Timothée 2, versets 3 à 10. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Il n'est pas de soldat qui se laisse distraire par les affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, celui qui a donné ce projet. » Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Le projet que Dieu avait placé devant les yeux de Paul et sur le cœur de Paul, c'est « Toi, mon ami, tu vas être un apôtre pour les païens, pour les non-juifs. » Ça, c'est la mission qui t'est donnée. Et Paul dit « Je suis prêt à tout souffrir et je ne m'embarrasserai pas des affaires de la vie. » Parfois, les distractions vont venir par des adversaires comme Néhémie. Et ça se peut que vous en ayez. Vous voulez bâtir un témoignage pour le nom de Christ au travail. Et il y a des gens qui commencent à questionner votre respect pour les autres religions, votre respect pour les autres conceptions de Dieu. Ils vont jusqu'à dire même que vous portez atteinte à l'idée même de Dieu en disant qu'il y a juste Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu, par exemple. Et là, ça se peut qu'il y ait une rumeur, qu'il y ait des choses qui courent au travail. Ça peut être dans votre famille. Ah, on le connaît, celui-là, c'est un Jesus freak. Ça peut être dans votre foyer, avec un conjoint qui dit, on le sait bien, toi, hein? C'est bien. Toujours plus spirituel que les autres. Voyez-vous, des fois, ça va venir de personne. D'autres fois, comme l'apôtre Paul le résume ici, simplement les affaires de la vie. Tout ce qui pourrait survenir, qui pourrait me distraire de ma course. Mais Paul connaissait son appel, connaissait l'Évangile, connaissait le projet que Dieu avait placé devant lui, et il refusait intentionnellement, catégoriquement, d'être distrait de sa course. Maintenant, s'il en est un qui avait un projet extraordinaire sur son cœur, c'est bien le Fils de Dieu, n'est-ce pas? Lui avait un projet extraordinaire. Lui avait un projet absolument merveilleux. C'était celui de venir sur la terre et de se rendre jusqu'à la croix pour être crucifié sur la croix afin de payer pour nos péchés, pour pouvoir racheter des milliers de frères et de sœurs qui allaient présenter à son Père un jour. Ça, c'était le projet qui était sur son cœur. Et Christ aussi a eu plusieurs occasions d'être distrait dans sa course. Je vous lis un autre passage dans Matthieu 16, 23. Alors que Jésus est en train de se diriger maintenant à Jérusalem pour aller se faire crucifier. C'est le projet qui est sur son cœur. Matthieu 16, 23, « Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. » Une distraction se présente à lui. Pierre, un des plus proches de Jésus. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Et il dit, « Non, Seigneur, non, ça ne se produira pas, tu n'iras pas mourir, nous ne permettrons pas qu'il te fasse du mal. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan! Tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Jésus n'est pas prêt à se laisser distraire, même si le diable veut servir d'un de ses proches pour le détourner de sa course, parce qu'il connaît le projet que Dieu a placé sur son cœur. Si Dieu a placé quelque chose sur votre cœur, et encore une fois, il y a tellement de possibilités. Je pense aux mères cette semaine. Je pense aux mères. Dieu a placé sur votre cœur d'instruire vos enfants dans la foi, de leur communiquer votre foi, d'aller gagner un de vos enfants qui est maintenant adulte et qui n'a pas soumis sa vie à Christ. Vous avez eu beau tout enseigner, il n'est pas là, il ne marche pas. Et Dieu a placé sur votre cœur de le porter dans la prière, de le gagner. Dieu a placé sur votre cœur de gagner votre époux à Christ, de rebâtir une atmosphère édifiante dans la maison. Voyez-vous, les possibilités sont infinies. Dieu a placé sur votre cœur de bâtir un témoignage au travail. Dieu a placé sur votre cœur de vous rapprocher de lui et de le connaître. Dieu a placé sur votre cœur de vous impliquer dans quelque chose comme Bouffe pour tous et de communiquer un amour évident et l'Évangile à des gens. Dieu a placé sur votre cœur de bâtir un ministère pour sa gloire. Il va y avoir des embûches qui vont se présenter. Parfois, ça va venir de personnes autour de vous. Rarement, ça peut être aussi vicieux que c'est le cas dans Néhémie. Je sais, c'est assez extrême, d'accord? Mais certains d'entre vous, vous pouvez vous identifier à Néhémie très personnellement avec des attaques aussi vicieuses que celles de Néhémie. Bon, peut-être que personne n'a menacé de vous projeter de vous tuer, mais des complots, des manigances, des jeux de coulisses. Alors, parfois, ça viendra de personnes. D'autres fois, comme l'apôtre Paul, c'est simplement les affaires de la vie qui viennent comme des embûches, situations financières, responsabilités, d'autres engagements, des gens qui vous disent « Ouais, mais tu me négliges ici, là, t'es supposé d'être là pour ça. » L'image que la société vous projette de ce que vous devriez être, l'image que les chrétiens vous projettent de ce que vous devriez être, l'image que les gens autour de vous vous projettent de ce que vous devriez être. D'autres fois, c'est littéralement le diable, l'ennemi de vos âmes, qui va servir de circonstances, de personnes autour de vous, simplement pour tenter de vous distraire de votre course. Voici ce que Néhémie a à vous dire ce matin, c'est ça que j'ai à vous dire. Si Dieu a placé un projet sur votre cœur pour sa gloire, vous l'avez baigné dans la prière, vous savez que Dieu veut faire cela. Gardez le focus. Gardez le focus. Refusez les distractions. Prenez la décision, comme Néhémie, de vous en remettre à Dieu pour les embûches, choisissant de traiter toutes ces choses comme des distractions possibles dans l'accomplissement et la poursuite de ce projet que Dieu a placé devant vous. Et dites-vous que plus il va y avoir d'embûches, plus Dieu sera glorifié au moment où ça va s'accomplir. Amen. Voilà ensemble dans la prière. Seigneur Jésus, je t'ai rencontré et j'ai fait ta connaissance parce que tu t'es révélé à moi. Le jour où tu es entré dans ma vie, Seigneur, les priorités de ma vie ont été bouleversées. Ma vie a été littéralement bouleversée avec de nouvelles priorités, de nouveaux projets, Seigneur. Et depuis ce jour, à tout moment, j'avance dans la vie et tu viens me bousculer, Seigneur, plaçant devant moi de beaux projets, de belles œuvres à accomplir pour toi, Seigneur. Des projets de reconstruction, souvent au milieu des ruines. Seigneur Jésus, je veux apprendre de Néhémie à devenir persévérant. Je veux apprendre de Néhémie, de Paul et de toi, Seigneur, plus que tout autre, à ne pas me préoccuper de ce que les gens peuvent dire, à ne pas me préoccuper des embûches qui peuvent se dresser devant moi, à te faire confiance, Seigneur, à m'en remettre à toi, sachant que tu es là et que tu vas m'accompagner pour mener à terme ce projet, Seigneur. Seigneur, accorde-moi la grâce de garder le focus, de rester concentré sur ce projet qui va te glorifier, Seigneur. Accorde-moi, Seigneur, de trouver la force en toi. Je te fais, Seigneur, ce matin, la prière de Néhémie à mon tour. Fortifie-moi, ô mon Dieu. Fortifie-moi, ô mon Dieu, et vois, Seigneur, toutes les embûches qui sont devant moi. Souviens-toi, Seigneur, de ces embûches. Souviens-toi de ces gens, Seigneur, qui s'opposent. Et Seigneur, je te prie de les bouleverser et de leur montrer que tu es derrière ce projet, Seigneur. De les confondre, de les humilier à leur tour, Seigneur, et qu'ils puissent reconnaître que tu es Dieu et que tu peux faire de belles choses encore aujourd'hui. Père, j'aimerais te prier pour ceux d'entre nous qui sont encore là, prostrés, découragés, abattus dans leur ruine. Seigneur, c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire, c'est toi qui donnes la repentance. Viens saisir ton Église, Seigneur. Viens saisir ton Église. Et qu'au milieu du découragement, Seigneur, la vie renaisse en nous et que nous prenions espoir dans ce Dieu merveilleux qui est non seulement mort sur la croix crucifiée, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Qui nous a donné son esprit, Seigneur. Que ton esprit vienne fortifier nos os fatigués, Seigneur, nos cœurs, des fois découragés. Et viens, Seigneur, rafraîchir notre vision. Je te prie pour ceux au milieu de nous, Seigneur, qui ne te connaissent pas encore intimement, Seigneur Jésus. Je te prie, Seigneur, de venir leur donner la vie. Viens leur faire connaître ce projet que toi, tu as mené à terme, Jésus, en mourant sur cette croix et en ressuscitant d'entre les morts. Viens leur faire connaître, Seigneur, cette vie nouvelle qui peut commencer pour eux. Viens leur révéler l'Évangile de Jésus-Christ. Enfin, Père, en terminant ce matin, je veux avoir une pensée pour toutes les mamans. Je te demande de les bénir aujourd'hui, Seigneur. Je te prie de bénir les sœurs aussi qui portent comme une cicatrice sur leur cœur de ne pas être mères. Je prie, Seigneur, de leur donner la joie de s'investir dans des vies ici, dans l'Église, dans les vies de nos enfants, Seigneur, dans les vies de frères et sœurs, et qu'ils puissent aimer, Seigneur, et trouver cette famille à aimer. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont rappelés d'un deuil douloureux aujourd'hui. Je prie, Seigneur, de les consoler, de les fortifier, de les bénir en toi, Seigneur. Viens nous donner de la réjouissance au milieu de cette journée. C'est en Jésus-Christ que nous prions. Amen.